plus une entreprise répond à des enjeux essentiels au niveau planétaire, au niveau de l'humanité, plus elle est résiliente et plus elle aura de l'impact.
Bienvenue dans le podcast Activer l'économie circulaire.
Je suis Brieux Saffré.
Je suis Justine Laurent.
Nous sommes fondateurs de l'agence de conseil et design Circulab. Nous travaillons avec les entreprises, collectivités et entrepreneurs pour concevoir leurs stratégies, produits et services et ainsi apporter des solutions aux enjeux de ressources et de résilience des territoires.
Dans ce podcast, nous partons à la rencontre d'entrepreneurs, de dirigeants ou de porteurs de projets qui appliquent les principes du vivant et la pensée systémique pour concilier développement économique, inclusion sociale et régénération des écosystèmes.
Vous pouvez nous retrouver sur le site circulab.com ou sur les réseaux sociaux.
Vous pouvez aussi vous abonner au podcast pour rester à jour sur les meilleurs exemples d'économie régénérative.
Bonne écoute à vous.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Emmanuel. Bonjour Emmanuel.
Bonjour. Bonjour Brieux.
Et je suis très content de t'avoir aujourd'hui parce qu'on échange depuis quelques temps sur le sujet de l'économie circulaire, d'économie régénérative. Et tu es notamment l'auteur d'un super livre qui s'appelle Shifting Economy. Et puis tu as pas mal d'autres activités qui sont vraiment passionnantes sur le sujet. Donc je suis très content de te recevoir aujourd'hui dans ce podcast. Est-ce que déjà tu peux nous présenter ton parcours ?
Alors mon parcours, j'ai travaillé pendant environ 15 ans dans des entreprises d'économie assez classiques. Et puis à un moment donné, j'ai eu finalement un shift. Je me suis réveillé parce que je me suis rendu compte que des collègues, des dames, étaient licenciés après leur retour de congé de maternité. Il y en a eu deux comme ça en un an, alors que je travaillais dans une grande société qui s'appelle Orange, que tout le monde connaît, je pense, y compris en France, et qui faisait à l'époque 40% de profit. Et donc, on roulait tous dans des très grandes voitures, on avait tous plein d'avantages, des bonus. Et je me retrouvais finalement à voir des collègues qui étaient licenciés. Et j'ai vu aussi des personnes qui étaient virées de façon pas très humaine à 55 ans parce qu'on considérait qu'elles étaient moins efficaces et dans des situations que je trouvais vraiment déplorables et de façon totalement inhumaine. Donc c'est ce qui m'a amené finalement à shifter progressivement.
Donc là, on est au début des années 2000 à peu près ou fin des années 90?
Donc là, c'est relativement récent parce que finalement, c'était en 2006. C'est ça, 2006. Et donc là, j'ai commencé à me poser des questions, à m'intéresser à la presse. J'ai travaillé pour le journal Le Soir. J'étais directeur de toute la partie commerciale, des journaux, des magazines. J'ai cru que la liberté de la presse allait tout sauver. Et puis, je me suis rendu compte aussi que c'était un secteur très compliqué, avec beaucoup de pression au niveau financier, des pressions aussi au niveau interne, au niveau des différentes équipes. Et puis, petit à petit, je me suis rapproché du monde associatif et j'ai travaillé pour une entreprise d'économie sociale du commerce équitable qui s'appelle Oxfam Magasins du Monde. J'étais directeur marketing, importation, développement des produits et également vente et développement du réseau. C'était une fabuleuse aventure de 6 années. On a réorganisé pas mal de choses en le faisant de façon collaborative avec les bénévoles, avec les employés. Et puis ensuite, j'ai évolué également dans l'économie sociale en travaillant avec les personnes handicapées et en développant différents projets dans l'économie circulaire pour permettre à ces travailleurs d'avoir des activités qui les nourrissent au quotidien et qui leur permettent aussi de contribuer aux enjeux climatiques, notamment en récupérant des ressources, en les revalorisant et en leur permettant de donner de nouvelles vies à différentes ressources, à différents déchets. Et donc aujourd'hui, j'ai la grande chance de collaborer à différents projets et d'essayer modestement d'avoir de l'impact, tant au niveau d'entreprises qui ont décidé d'évoluer et de shifter vers une économie beaucoup plus régénérative, principalement dans des projets d'économie circulaire. En ce moment, j'accompagne une agence d'événements en Belgique qui est responsable de l'organisation de 300 événements par an et qui a décidé de shifter vers la circularité. et également l'économie, la fonctionnalité. Et donc, ce qui est assez génial, c'est finalement de passer de l'éphémère au durable. C'est plus qu'une transformation dans les processus, c'est une transformation au niveau culturel dans l'ensemble de l'organisation de cette entreprise d'une centaine de personnes. Donc, c'est un beau défi. Et donc, on est parti pour plusieurs mois de travail collaboratif. C'est assez génial. À côté de ça, je viens de terminer un travail avec les parlementaires de la région wallonne, donc dans le sud de la Belgique, qui permet en fait de dresser l'état des lieux de l'économie circulaire en Wallonie et également de déterminer les perspectives pour les prochaines années en économie circulaire. Ce qui est fabuleux, c'est que c'est un rapport qui a été réalisé de façon tout à fait consciente et collaborative, tant par les parlementaires de la majorité que les parlementaires de l'opposition. On a également le ministre d'économie qui a contribué, son cabinet. Et donc, il y a vraiment une union autour de ce projet qui va permettre de favoriser un impact positif au niveau social en créant de l'emploi tant pour des personnes infraqualifiées que des personnes super qualifiées. Également, bien sûr, au niveau environnemental, en réduisant le nombre de déchets, mais également en réduisant le nombre de produits, de matières premières importées en Belgique. Et puis, bien entendu, au niveau économique, avec des possibilités de croissance, de développement de nouveaux services pour les entreprises en Wallonie. Et last but not least, également une évolution en termes de gouvernance au niveau des relations entre les entreprises et les pouvoirs publics, mais aussi au sein des entreprises qui décident de faire ce changement. Et donc, la dernière partie de mes activités concerne le monde académique. Donc, j'ai la chance d'être invité dans 7 universités et hautes écoles en Belgique, qui sont principalement des écoles de commerce, également des écoles d'ingénieurs, une école d'ingénieurs civils, et puis une école qui forme des personnes dans le secteur de l'économie sociale. Et en fait, ces activités et ces cours me permettent finalement de partager, d'échanger avec des étudiants sur leur vision du futur au niveau durabilité. Et ce qui est assez génial, c'est que la majorité sont extrêmement motivés et ont une autre façon de réfléchir. Ils pensent vraiment de façon écosystémique, de façon collaborative. Et donc, ça donne énormément d'espoir et ça m'inspire aussi pour développer de nouveaux outils, de nouvelles réflexions et écrire de nouveaux livres aussi. Et alors, également, je suis depuis le mois de septembre 2018 l'adjoint de Michel Boens, donc le fondateur de la Peer-to-Peer Foundation, et il m'apporte énormément de vision, de réflexion très intéressante, et j'essaie aussi de lui apporter certaines réflexions sur certains projets précis que nous voulons développer en Belgique notamment.
Bah, bravo déjà pour tout ça. On va revenir un petit peu sur toutes ces expériences au fur et à mesure des questions, mais est-ce que déjà, pour commencer, pour qu'on puisse avoir une base commune avec ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous décrire ce qu'est une économie circulaire et régénérative, s'il te plaît ?
Alors, pour moi, une économie circulaire, c'est une économie qui vise à, d'une part, réduire au maximum ses impacts au niveau de la, ses impacts négatifs au niveau de la nature, et donc qui vise finalement à faire circuler au maximum les ressources qui sont disponibles, qui sont déjà utilisées, et à les faire circuler de la façon la plus efficace, c'est-à-dire à augmenter la durée d'usage des différentes ressources, mais également à augmenter un maximum l'utilisation de ces ressources. Et donc pour moi, l'économie circulaire est directement relié à l'économie de la fonctionnalité et ce qu'on appelle en anglais, qu'on peut traduire en français par l'économie de la performance, donc de l'utilisation performante des différentes ressources. Pour moi, il y a un lien direct avec l'économie collaborative également, parce que penser à faire de l'économie circulaire sans s'ouvrir vers un écosystème beaucoup plus large, je ne pense pas que ça fonctionne. Et il y a également pour moi un impact au niveau de l'économie locale, parce que je pense que l'économie circulaire doit s'ancrer dans une relocalisation de l'économie. Et comme le dit Michel Boens, finalement, on devrait arriver à une économie où tout ce qui est lourd devrait plutôt se créer, se développer, se générer en cercle au niveau local, et tout ce qui est léger, les connaissances, l'imagination, les informations, etc., pourraient et peuvent se partager au niveau global.
Oui, tout à fait. Et justement, est-ce que tu as des exemples concrets, peut-être de Belgique ou peu importe, qui pourraient illustrer cette économie circulaire et peut-être revenir un peu sur la notion de régénération, parce que là, tu as plus insisté sur la performance, l'économie de fonctionnalité, mais peut-être aussi évoquer tout ce qui est régénération, parce que ça, c'est ici quelque chose qui peut être relativement nouveau pour beaucoup.
Si on lit le rapport du Club de Rome, donc le fameux rapport qui finalement illustre les principaux défis climatiques auxquels nous devons faire face depuis plusieurs années, on a finalement trois possibilités. Soit on continue dans la direction dans laquelle on va, et c'est-à-dire continuer à avoir et encourager et à développer l'économie dégénérative, donc celle qui dégénère les ressources naturelles, mais également les ressources humaines, qui dégénère l'ensemble du patrimoine de l'humanité. Donc ça, c'est une piste. Évidemment, ce n'est pas de celle-là qu'on va parler aujourd'hui.
On en parle déjà suffisamment, je pense.
Voilà, tout à fait, malheureusement. Et l'autre piste qui est parfois évoquée, mais qui pour moi n'est pas une solution non plus, c'est de se dire, OK, on va tous profiter de la vie, on va se retirer à la campagne, on va s'occuper de son petit potager, on va vivre dans une petite communauté, pour soi-même, pour sa famille, et on va tout faire pour réduire un maximum les impacts. On va aller vivre limite dans une caverne. Pour moi, c'était pas une solution parce que ce n'est plus une solution. Nous devons entreprendre autrement. On doit pouvoir entreprendre en régénérant les ressources. Et je pense que les meilleurs exemples existent notamment dans l'agriculture, où finalement, ben, passer d'une agriculture agro-industrielle à une agriculture de type agroforesterie ou permaculture, ce sont les meilleurs exemples, je pense, universels, qui sont valables sur toute la planète, qui permettent de démontrer que les personnes qui font cela régénèrent le sol, donc régénèrent la qualité des nutriments également, régénèrent la qualité de l'eau, régénèrent évidemment l'alimentation qui est partagée avec les différentes personnes d'une même communauté, et l'ensemble de l'écosystème, la nature, etc. Et donc pour moi, on n'a pas le choix, on doit aller dans cette direction-là. Alors, juste aussi pour apporter quelques petites précisions, je pense qu'il y a énormément de pièges dans ce qu'on appelle l'économie régénérative, et on en parlera sans doute plus en détail par la suite, mais les pièges, c'est notamment tout le discours néolibéral qui dit qu'en fait, oui, effectivement, toutes les solutions technologiques, la science, les investissements dans les nouvelles technologies vont permettre de sauver le monde, et donc investissons à fond dans toutes ces technologies. Alors que je pense que non. Il faut plutôt aller vers du low-tech, et il faut justement, et c'est là pour moi qu'il y a un lien important avec l'économie circulaire, c'est chaque fois de réfléchir aux impacts au niveau social, au niveau humain, les impacts au niveau de la nature, au niveau économique et également au niveau du type de gouvernance par rapport aux décisions qu'on prend. Et donc, c'est complexe, mais ce n'est pas infaisable.
Oui, c'est ça qu'il faut retenir aussi. C'est effectivement, ça tire un petit peu dans tous les sens, comme d'habitude. Là, j'ai vu récemment qu'il y avait des chercheurs qui avaient établi qu'il y avait 115 définitions différentes pour l'économie circulaire, faisant en sorte qu'il y ait moins de divergences sur l'économie régénérative.
Oui, ça ne m'étonne pas. Mais je crois que le principe aussi, c'est de se dire que, pour moi, un des premiers principes, c'est celui que Einstein nous enseigne, c'est le fait de considérer que tout est relié, qu'il faut avoir une vision systémique, et que donc, comme il le disait, on ne peut pas réutiliser les outils et les méthodologies qui ont créé les problèmes actuels, il faut utiliser d'autres approches, d'autres outils, et je pense que ce qui mène aujourd'hui à l'économie dégénérative, c'est cette approche linéaire et simpliste. Cette approche finalement qui voudrait tout scinder, alors qu'en fait, il existe des solutions qui permettent de répondre à plusieurs enjeux. Quand aujourd'hui, le monde politique et populiste simplifie en disant « il faut faire des choix, soit on favorise l'emploi ou bien l'écologie », moi je dis non. Il y a énormément d'exemples en Belgique et en France qui permettent de répondre à ces deux enjeux, voire même à d'autres enjeux tels que la migration. Et donc pour moi, il y a tout à fait moyen de pouvoir co-créer autrement et de façon beaucoup plus résiliente que dans le discours néolibéral qui voudraient finalement qu'on investisse dans beaucoup plus dans l'outil industriel pour ensuite peut-être favoriser éventuellement la stabilité au niveau environnemental et l'amélioration des conditions sociales.
Et justement, tu le dis toi-même, tu accompagnes des entreprises dans à faire ce shift vers cette nouvelle économie circulaire, régénérative. Qu'est-ce qui pour toi est nécessaire pour une organisation, alors une entreprise, une association ou même une collectivité, qu'est-ce qui est nécessaire pour ces organisations pour faire ce shift finalement?
Alors, je pense que tout commence d'abord par une prise de conscience et j'en parle assez aisément dans le sens que moi, je considère que, comme j'ai d'abord étudié dans des écoles de commerce classiques et j'ai travaillé pendant 15 ans dans l'économie relativement classique et donc, on va dire, dégénérative, je sais ce que c'est que d'être dans ce confort-là, d'être dans ce que moi j'appelais la cage dorée, c'est-à-dire des entreprises qui vous maintiennent dans un système économique qui n'est pas du tout durable, mais où vous avez énormément d'avantages, une grosse voiture, un gros salaire, etc., etc. J'ai connu ça. Et donc, à un moment donné, il faut shifter, il faut prendre conscience que on va pas laisser la planète dans cet état-là, qu'il y a la nouvelle génération qui arrive et qu'il faut pouvoir améliorer les choses et que c'est possible de le faire. Et donc, je pense que le premier élément, c'est d'abord et avant tout le fait de prendre conscience qu'il est possible de changer, que ça améliore les choses au niveau humain, au niveau de relations entre collègues. Donc c'est le premier élément, la prise de conscience. Deuxième élément, je pense que c'est identifier l'ensemble des ressources cachées que l'on a dans une entreprise, dans une collectivité, dans une organisation, et qui ne sont pas activées. Alors là, je voudrais faire une petite parenthèse. On a souvent tendance en Occident à considérer que soit tout est bien ou soit tout est mal. Alors que, en fait, dans l'idéologie et la philosophie asiatique notamment, les choses sont beaucoup plus nuancées. Et donc, je pense que un peu comme dans un bilan où on a l'actif et le passif, moi je considère que ce qui est passif, ce sont justement des choses qui peuvent être activées peuvent être transformées en actifs pour permettre de créer de la valeur pour son entreprise et son écosystème. Et pour moi, le meilleur exemple, c'est évidemment l'économie circulaire, puisque l'économie circulaire part aussi de ce qu'on peut appeler des déchets ou de ce qu'on appelait dans l'ancienne économie des déchets, donc des coûts, des choses dont on essaie de se débarrasser. Et finalement, si on applique un autre regard, une autre grille d'analyse à ces déchets et qu'on les structure différemment, on se rend compte que souvent dans ces déchets, il y a des ressources qui permettent en fait d'alimenter d'autres processus, soit en interne dans son propre processus de production ou soit vers l'extérieur avec d'autres partenaires.
Et justement, pour illustrer cette double considération d'une même chose, c'est très bien expliqué, notamment dans la préface de ton livre Shifting Economy, et notamment le yin et le yang, et puis surtout l'idéogramme qui représente crise, je crois en chinois, en kanji, si je ne me trompe pas. En fait, il y a une double signification, c'est effectivement, il veut bien dire crise, mais il veut dire aussi opportunité. Et donc, je trouve que ça illustre assez bien cette philosophie de considération, on va dire, moins binaire, c'est blanc ou c'est noir, mais au contraire, il y a peut-être beaucoup, beaucoup de nuances de gris qui font qu'on va arriver à quelque chose de beaucoup plus utile et pertinent.
Oui, et je crois que, enfin, chaque fois que j'aborde cet outil qui s'appelle la carte des alliances, dans Shifting Economy, qui est disponible gratuitement, donc les personnes qui veulent le trouver tapent simplement sur Ecosia ou un autre moteur de recherche durable.
Je le mettrai en lien du podcast, t'inquiète pas.
Parfait. Et donc, en page 37, je pense, il y a la carte des alliances. Et c'est un outil qui s'utilise assez facilement. En moins de 5 minutes, il y a déjà moyen d'identifier sur 7 niveaux de valeur quelles sont finalement les ressources qui sont activées dans l'entreprise et celles qui sont probablement passif pour l'instant. Et ces 7 niveaux de valeur, ce sont des niveaux de valeur assez logiques. C'est-à-dire, il y a d'abord la nature, l'ancrage avec le territoire. Ensuite, il y a tout le volet matériel et financier. Après, au-dessus, il y a Il y a tout le bilan relatif au processus, la façon dont on développe les processus et la fluidité en interne. Il y a tout ce qui est communication, tout ce qui est partage des connaissances, tout le volet émotionnel, bien-être, pour en interne et également à l'extérieur, et évidemment la contribution au bien commun. Et ce qu'on constate en général dans la majorité des entreprises, c'est qu'elles se limitent aujourd'hui à deux bilans. C'est le bilan financier, évidemment, et également le bilan processus qui permet, croit-on, de ramener énormément d'argent et donc d'augmenter la productivité. Seulement, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en se limitant à ces deux bilans, on ignore ou on limite le potentiel, surtout immatériel, qu'il y a dans une organisation en termes de motivation du personnel face à du présentéisme ou à des burn-out, des gens qui en ont ras-le-bol, qui ne peuvent plus rester dans l'organisation, qui sont totalement démotivés. Également toute la dynamique au niveau des connaissances, toute l'imagination qu'il y a au sein d'une organisation et la motivation des personnes à contribuer à un objectif supérieur à l'objectif simple de l'entreprise de produire tel ou tel objet ou tel service ou bien à gagner un salaire qui évidemment est indispensable, mais il y a moyen d'aller au-delà en contribuant au bien commun, à une collectivité beaucoup plus large, à l'humanité. Et donc ce qu'on se rend compte, c'est que quand on fait cet exercice-là, et qu'on relie avec les parties prenantes autour de l'entreprise, de l'organisation, on se rend compte que souvent, la majorité des personnes qui font cet exercice arrivent à découvrir plusieurs choses. D'abord, elles arrivent à identifier des ressources cachées qui sont passives et qu'elles pourraient activer facilement. Elles arrivent aussi à voir que les relations avec les différentes parties prenantes de leur écosystème ne se limite pas simplement à un échange monétaire, échange de services contre de l'argent, mais qu'il y a d'autres ressources qui se mettent en place. Et donc, ça permet aussi, finalement, de contribuer à une économie beaucoup plus collaborative et une économie beaucoup plus résiliente, puisqu'il ne s'agit pas simplement d'avoir des fournisseurs qui apportent des services ou des produits, mais de créer un écosystème qui est résilient et qui évolue ensemble dans le cadre du développement durable et d'une économie beaucoup plus régénérative.
Alors, je tiens juste à préciser, parce qu'effectivement cet outil est assez intéressant, il est page 38 dans ton livre, pas page 37.
D'accord, merci.
Mais effectivement, il est très bien illustré, il permet de le prendre en main assez facilement, notamment avec un exemple sur un téléphone avec toutes les parties prenantes, aussi bien les recycleurs que les extracteurs de matières premières, etc., et les clients, évidemment. Et ça permet vraiment de facilement comprendre ça et effectivement d'aller beaucoup plus loin qu'un simple bilan qu'on pourrait voir dans l'économie des régénératives. Et alors, il y a beaucoup de ponts que tu évoques dans les 14 ponts, si je me trompe pas, que tu évoques pour établir la relation avec l'économie, avec cette nouvelle économie. Mais moi, il y a une notion que j'aime beaucoup, alors qu'on avait déjà défendu dans notre livre Activer l'économie circulaire, mais que tu remets au goût du jour, disons, c'est la raison d'être des entreprises. Justement, comment on définit aujourd'hui pour une organisation sa raison d'être ? Parce que tu l'as un petit peu évoqué du doigt, mais ça aussi, ça fait partie du patrimoine immatériel d'une entreprise, finalement.
Alors, je pense que la raison d'être, elle n'est pas coulée dans le bronze, dans le marbre. Elle évolue. Elle évolue parce que, d'une part, elle est challengée par de nouveaux entrants sur le marché, par de nouveaux collaborateurs qui arrivent, de nouvelles collaborations, de nouvelles parties prenantes. Et donc, cette raison d'être, il faut de temps en temps l'interroger et y revenir pour bien comprendre le why, le pourquoi cette organisation existe et comment ça s'est traduit concrètement dans le quotidien des collaborateurs, mais également dans le quotidien de l'entreprise au niveau de son offre de services et de produits. Et je pense qu'une des façons les plus fortes de définir le pourquoi, c'est d'aller chercher dans ses tripes et dans ses émotions et de et également celles de ses collaborateurs et de comprendre quelle est la raison pour laquelle on se lève le matin et on va travailler dans son entreprise. Et je pense que c'est un élément essentiel parce que c'est la motivation d'une part des collaborateurs, mais c'est également l'énergie qui circule dans l'entreprise et que les parties prenantes vont, et les clients également, vont ressentir ou non. Et donc, plus cette raison d'être est vivante parce qu'elle est alignée dans l'ensemble des activités d'une organisation, et plus, je pense, ça aura de possibilités d'être performant et surtout, si c'est dans le cadre d'une économie régénérative, d'avoir des impacts profitables pour l'ensemble de la communauté.
Oui, tout à fait. Et puis, c'est surtout qu'on se rend compte que les entreprises qui ont bien défini cette raison d'être et dans lesquelles celle-ci est vraiment comprise et admise par tous les salariés, alors évidemment aussi les clients, mais aussi les fournisseurs, on sent que ces entreprises sont nettement plus performantes, en fait.
Oui, parce que en fait, aujourd'hui, la valeur réelle d'une entreprise, ce n'est plus simplement les bâtiments, les véhicules, les machines, tout ce qui est matériel et le trésor de guerre de l'entreprise. Ce n'est plus ces éléments-là. Aujourd'hui, une entreprise, la valeur d'une entreprise, c'est toute la partie immatérielle qu'elle développe. C'est toute l'imagination, toute la confiance qu'elle arrive à créer. C'est sa marque, c'est son image, c'est la façon, la dynamique au niveau des employés, la motivation des employés. Et donc, ça veut dire que ces éléments-là sont portés justement plus par la partie immatérielle de l'entreprise et donc par la raison d'être de l'entreprise, par sa motivation et par sa raison d'être que par tout ce qui est matériel. Et donc, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on ne peut plus faire l'impasse de ne pas redéfinir sa raison d'être et on ne peut plus non plus ne plus relier cette raison d'être avec les grands enjeux de société d'une organisation, enfin, auxquels une organisation peut contribuer. Je pense que ça, c'est vraiment fondamental. Et il me semble aussi, d'après ce que je peux voir dans mes différentes expériences, que plus une entreprise répond à des enjeux essentiels au niveau planétaire, au niveau de l'humanité, plus elle est résiliente et plus elle aura de l'impact et également plus elle aura la possibilité de continuer son activité.
Et j'ajouterais en plus que plus les membres de cette entreprise vont être encore plus impliqués et iront pour encore plus loin, enfin seront plus efficaces, quoi.
Exactement, oui, voilà. Donc tout ça est complètement aligné et je pense, enfin, j'espère que de plus en plus de chefs d'entreprise et chefs d'entreprise vont prendre le pas d'aller dans ce sens-là. Moi, j'en vois de plus en plus qui le font, mais il faut continuer et accélérer le mouvement pour que de plus en plus de personnes puissent aussi se libérer, parce que je pense aussi que plus on est aligné et plus, en fait, on se sent libéré. C'est-à-dire plus on se sent léger et capable d'avoir de l'impact et motivé, en fait.
Ouais, et on démultiplie les énergies aussi.
Exactement. Alors que les personnes qui sont en partie, pour certains, obligées ou qui se sentent obligées de continuer à travailler dans une économie qui dégénère les ressources naturelles, humaines, etc., et parfois, ce sont des personnes qui se sentent obligées parce qu'elles ne voient pas d'autres possibilités d'évoluer, alors qu'en fait, il y a plein de possibilités et de moyens de contribuer à un monde meilleur aujourd'hui, de façon bénévole, peut-être parfois dans un premier temps, ensuite en s'impliquant dans une coopérative, parfois en développant des activités sur le côté, enfin, donc en lisant, en se renseignant, en allant à des conférences, en faisant partie de groupes, et puis à un moment donné, en rejoignant une organisation qui permet de shifter complètement, d'aller dans une autre direction. Et donc, je pense aussi que ça permet même aux personnes en tant que telles, en tant qu'humains, de se libérer, de se sentir beaucoup mieux en se sentant complètement alignées et heureuses dans ce qu'elles font. Alors, parfois, ça demande des sacrifices au niveau matériel. Et moi, j'en ai fait quand j'ai quitté le monde classique capitaliste. Je pense qu'aujourd'hui, je gagne environ 40% de moins que ce que je gagnais avant. Mais je peux vous dire, je suis extrêmement heureux. Et en fait, j'ai fait des choix qui sont ultra logiques. Et comme juste à titre d'exemple, le fait de manger bio ne coûte pas spécialement plus cher. Si vous rejoignez une coopérative et notamment une association aussi qui aide les petits producteurs, en fait, vous êtes en circuit court, en contact direct avec le producteur. Alors évidemment, vous devez vous lever tôt le samedi matin, aller trier les caisses de légumes, etc. Mais en même temps, je veux dire, cette partie-là, elle est géniale. J'ai un contact avec une agricultrice, je comprends sa réalité, je sais exactement d'où viennent les fruits et légumes. En plus, ils ont un goût fabuleux, je suis en meilleure santé. Enfin, donc je ne fais qu'y gagner. Alors après, il y a une petite différence au niveau économique, mais je m'en fous et je vis extrêmement bien et j'en suis très heureux. Et donc j'espère que de plus en plus de gens pourront également vivre ce changement.
Ben, c'est surtout qu'il faut aussi être complet sur ce sujet, c'est-à-dire que le prix affiché sur le produit est peut-être un peu plus cher en bio, et encore, ça c'est à discuter, mais dans les supermarchés classiques, on ne va pas aussi mettre le prix des impacts, enfin des externalités de cette agriculture destructrice, qui non seulement aura des impacts sur les écosystèmes, mais aussi sur la santé de celui qui va les manger, avec tout le système de santé à financer, etc. Donc finalement, si on fait une analyse, encore une fois, systémique, et qu'on relie ça au prix facial du produit, bah, en fait, l'agriculture bio est bien moins chère que l'agriculture classique. Et là aussi, c'est aussi une question de point de vue, finalement.
Oui, je te rejoins complètement. Et j'ai envie de rebondir en introduisant un sujet qui, pour moi, est essentiel aujourd'hui en termes de mode de gouvernance dans les institutions et que nous essayons d'intégrer ici en Belgique. Alors, il nous faudra sans doute quelques années pour y arriver, mais je pense que c'est une approche qui, à mon avis, est assez essentielle et indispensable. Et donc la logique est la suivante, c'est d'aller finalement vers un modèle de, on va dire, de fiscalité contributive. Mais je voudrais, avant de parler de fiscalité, d'abord parler plutôt d'investissement public, donc d'investissement de l'État, de façon beaucoup plus régénérative et contributive.
Alors justement, là, toutes les notions que tu évoques, là, je comptais t'en parler justement, donc ça tombe très très bien. Mais justement, essaye de... peut-être que tu vas faire le lien aussi avec le rapport parlementaire que tu viens de rendre, je suppose.
Donc oui, le rapport parlementaire auquel j'ai contribué en tant qu'expert et co-rédacteur, qui est également disponible en ligne sur le site du Parlement de Wallonie. Ce rapport parlementaire, et peut-être que tu auras l'occasion aussi de le partager.
Bien sûr, tout à fait. J'ai le lien précieusement dans mes favoris.
Et donc, je dirais, bon, le rapport est assez consistant, mais j'invite les personnes qui ont envie de le lire à se concentrer surtout sur la synthèse et les recommandations. Il y a également une partie dans les définitions, on est allé un peu plus loin en donnant des exemples d'application de l'échelle de Lansing et d'expliquer comment on peut aller beaucoup plus loin que ce qui reste dans l'imaginaire collectif aujourd'hui d'une partie des décideurs comme étant simplement du recyclage. Le recyclage, on ne l'a quasiment pas abordé dans le rapport parlementaire parce qu'on considère qu'aujourd'hui, c'est un business qui tourne depuis déjà pas mal d'années et surtout, c'est un business en fait qui n'est pas complètement régénératif puisqu'il y a beaucoup de choses à faire avant, bien en amont, notamment en termes de prévention et d'autres formes de valorisation. Et donc, pour revenir sur ce rapport parlementaire, je dirais qu'il a, pour aller sur les éléments essentiels qui vont peut-être être intéressants pour une majorité de personnes, je dirais qu'il a l'avantage de mettre l'accent sur plusieurs éléments clés. Le premier élément, c'est tout d'abord tout ce qui concerne le rôle des pouvoirs publics, et donc le fait que les pouvoirs publics peuvent vraiment jouer un rôle essentiel dans des achats qui sont beaucoup plus responsables, donc dans des achats publics, et en indiquant dans les critères d'achat public des critères relatifs à l'économie circulaire. Le fait d'intégrer ces critères est une révolution en Belgique. Ce sont des choses qui n'existent pas. Alors, je ne sais pas pour la France, mais en tout cas, en Belgique, ça n'existe pas.
Il y a des efforts qui sont faits sur les achats responsables, etc., mais à ma connaissance, il y a encore une grosse marge de progression.
Ok. Et donc, l'un des efforts qu'on essaie de faire au niveau belge dans ce domaine-là, et qui sera entériné, je l'espère, par le prochain gouvernement, comme on le recommande dans le rapport parlementaire, c'est d'une part de développer des approches d'économie de la fonctionnalité. Ça veut dire que l'État ne va plus acheter des produits, mais va louer des fonctions, va accéder à des fonctions, ce qui lui permet en fait d'améliorer en fait les choses pour le budget de l'État. D'une part, ça lui permet d'avoir une garantie du budget qui va être dépensé. D'autre part, ça reporte la responsabilité de la performance au niveau énergétique, au niveau de la mobilité, au niveau de l'éclairage, etc., sur l'entreprise qui fournit le service. Et ça permet également de façon plus large à l'État, finalement, de réaliser ses engagements au niveau sociétal, au niveau global. Puisque plus elle va financer et favoriser des projets d'économie circulaire, et plus elle va contribuer, finalement, aux enjeux de société auxquels elle est censée répondre.
Excuse-moi pour illustrer ce point de vue, parce que c'est tout à fait passionnant. Si on prenait un exemple concret, tu as évoqué, par exemple, l'éclairage. Qu'est-ce que ça sous-entendrait pour une entreprise, finalement, de dire, bon, ben voilà, tel gouvernement, enfin telle collectivité ne m'achète plus l'ampoule, mais ça sous-entend que je vais devoir changer mon business model et donc passer à fournir de la lumière. Et donc, on imagine bien qu'en termes d'éco-conception, c'est-à-dire qu'effectivement, on va avoir besoin de créer des produits qui sont plus performants, ou on va avoir besoin de moins de main-d'œuvre pour les entretenir, etc. Et effectivement, et surtout traiter la fin de vie, parce que autant avant, l'entreprise vendait des ampoules et s'occupait pas trop du reste. Et maintenant, effectivement, ça, c'est un véritable effet domino, ce que tu viens de décrire là.
Alors effectivement, c'est un effet domino à plusieurs niveaux. Le premier niveau que tu as cité il y a un instant, c'est effectivement l'éco-conception. Ça veut dire évidemment que l'entreprise n'a plus du tout intérêt à avoir des produits qui sont obsolètes rapidement, mais au contraire, elle a surtout intérêt à lutter contre l'obsolescence programmée et aussi à anticiper les futures vies des ressources ou des produits ou des éléments qui vont être récupérés par la même société. Ça force également à être vraiment dans une logique de cradle to cradle, et donc ça force aussi l'entreprise à être responsable de A à Z de l'ensemble des ressources. Ce qui pour moi, et d'après mes analyses dans d'autres types d'équipements de façon plus large, les équipements électriques et électroniques, est une nécessité. Aujourd'hui, imaginez que les déchets électriques et électroniques, simplement en suivant un flux de recyclage, vont permettre de régénérer les ressources et de produire de nouveaux objets de façon responsable et en réduisant les impacts au niveau de la nature, c'est un leurre. Et donc le fait que le producteur ou le fournisseur de services, de solutions, soit responsable de l'ensemble des ressources de A à Z est pour moi un gage également au niveau environnemental. Et la plupart du temps, pour ces entreprises, ça sera même un avantage, entre guillemets, compétitif, puisque ça va lui permettre de se différencier de ses concurrents qui restent dans l'économie linéaire, et donc aussi de fidéliser ses clients, et aussi d'apporter des impacts, c'est-à-dire de démontrer l'impact concret pour la collectivité, pour l'entreprise qui fait appel à ce type de service, et donc de pouvoir communiquer auprès des citoyens que telle ou telle collectivité, telle commune, telle ville, telle institution, a tel impact concret au niveau CO2, au niveau énergétique, ou en termes d'autres externalités. Et donc ça, je pense que c'est aussi très important, puisque je crois que c'est aussi la base de l'économie contributive, ou accountability, comme on dit en anglais. Donc, c'est le fait d'être redevable et d'être responsable, finalement, aussi des impacts. Et donc, ça permet d'avoir une chaîne d'impact dans laquelle on peut tracer, finalement, ces différents éléments. Et l'autre élément extrêmement important qu'on a voulu intégrer dans le rapport parlementaire et qui fait partie de cette logique, c'est de se dire qu'à partir du moment où une collectivité décide de passer à l'économie circulaire et de passer à l'économie de la fonctionnalité, ça permet aussi de garantir à l'entreprise qui fournit ses services et qui décide de se transformer et d'investir dans ces évolutions, de pouvoir aussi disposer d'un marché pendant plusieurs années avec une certaine garantie. Et donc ça, je pense que c'est aussi extrêmement important quand on sait que les dépenses publiques en Europe tournent autour de 14 à 16% dans les budgets totaux. Ça permet évidemment d'avoir un impact, d'avoir un premier seuil.
14 à 16% de quoi tu veux dire ?
Du PIB. Donc si on prend la totalité des achats publics, ça permet en fait d'avoir un premier palier d'achat, de chiffre d'affaires pour l'entreprise, qui lui permet d'investir et de développer toutes les connaissances qui sont nécessaires en interne, d'engager des personnes compétentes, etc., et d'évoluer vers cette transformation, qui permet ensuite d'offrir ses services aussi à l'ensemble de la collectivité.
Ouais, c'est l'effet boule de neige, mais il faut qu'effectivement il y ait cette première impulsion. Effectivement, déjà 16% d'une économie, c'est déjà un bel effort, quoi.
Et alors, ce que nous avons aussi décidé de proposer dans ce rapport parlementaire, c'est d'investir les moyens publics dans un premier temps dans un domaine qui est relativement large, puisqu'il s'agit de la construction et des infrastructures, donc tant les bâtiments, les routes, etc. Et l'idée, quelle est-elle ? C'est d'utiliser une des parts importantes du budget de la région wallonne pour effectuer ces transformations dans un secteur qui est extrêmement porteur pour l'économie circulaire. Pourquoi ? La construction, par définition, elle est assez locale. Il y a énormément de matériaux qui viennent au niveau local. Elle est peu délocalisable au niveau de l'emploi. Et donc ça, c'est aussi un élément extrêmement important, de pouvoir relocaliser l'économie et d'apporter un maximum de valeur ajoutée au niveau local. Et aussi, c'est un secteur qui est générateur actuellement d'énormément de ressources qui, la plupart du temps, sont des déchets inertes. Et donc, ça permet de voir différemment ce secteur-là en leur proposant de l'éco-construction et aussi de pouvoir récupérer des matériaux de déconstruction pour les réinstaller sur d'autres sites qui sont rénovés ou de nouveaux sites en construction.
Et justement, alors, tu ne l'as pas évoqué, mais je trouve que c'est quand même assez fort parce que la Wallonie, on est sur une région qui a combien ? Quelques millions d'habitants ? Combien exactement ?
Il y a un peu plus de 4 millions d'habitants.
Et donc, dans ce rapport, vous montrez bien que finalement, l'économie circulaire dans cette région pourrait créer plus de 36 000 nouveaux emplois, réduire de moitié les émissions de CO2 et 30% la consommation de ressources primaires. Donc, on continue un petit peu sur ce que tu évoquais à l'instant. Et puis surtout, favoriser une croissance supplémentaire de 1%. Donc, encore une fois, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui parlent de décroissance, etc. Mais on peut tout à fait imaginer justement une économie qui régénère et qui permet finalement de concilier l'aspect économique et l'aspect environnemental.
Oui, et je pense que l'économie circulaire est l'un des meilleurs exemples dans ce qu'il est possible de faire dans tous les nouveaux modèles économiques régénératifs pour répondre à plusieurs enjeux à partir de solutions qui sont réfléchies à la base en écosystème. Et des exemples comme ça, il y en a de plus en plus. Je pense aussi à un autre exemple en Belgique, qui se situe à Gand. À Gand, vous avez près de 500 communs, 500 collectifs qui sont organisés par des citoyens, souvent en lien avec les autorités locales, avec la ville locale de Gand, mais également des entreprises. Et parmi ces 500 communs, je voudrais en citer deux qui me semblent assez intéressants. Alors, le premier, c'est un commun qui fonctionne autour de la mobilité, qui s'appelle Dégage. Et donc, c'est un mot utilisé en français, même si si on est en région flamande, il y a énormément de francophones du côté de Gand. Et donc, Dégage, c'est 1200 citoyens qui se répartissent, qui partagent une centaine de véhicules. Et donc, la particularité, c'est qu'ils arrivent à fonctionner de façon intermodale, donc en combinant différents types de moyens de transport, et donc à réduire finalement l'utilisation de la voiture, ce qui leur permet, avec une centaine de voitures, de pouvoir servir les besoins sporadiques en voiture pour 1200 personnes. Et donc, la Belgique, et surtout Bruxelles, qui est connue comme étant une des villes les plus embouteillées, pourrait bénéficier d'un effet gigantesque, tant au niveau de la qualité de l'air, mais également au niveau de la congestion, et également au niveau du problème de mobilité, au niveau économique, au niveau des entreprises, au niveau du charroi, etc. Si on pouvait appliquer ce même principe à Bruxelles, ça serait vraiment un impact énorme. En plus, ça permet aux personnes de récupérer du pouvoir d'achat plutôt que de l'immobiliser dans des véhicules qui, la plupart du temps, sont eux-mêmes immobilisés. Je crois que c'est 92% du temps, ils restent sur place.
Ah, ça monte à 96% du temps selon les études. Mais oui, tu as tout à fait raison. Oui.
Et donc, ça, c'est un exemple assez intéressant parce que, et il est d'autant plus intéressant qu'il est organisé par des citoyens. Et donc, ça veut dire que je crois qu'ils ont recruté une ou deux personnes maintenant. clients, mais sinon, ils fonctionnent en collectif citoyen, avec toute la confiance nécessaire. Ils ont un système aussi d'assurance qui permet de couvrir les dégâts éventuels, etc. Et donc, ils ont réussi à développer un écosystème qui est ultra vertueux d'un point de vue social. Ça crée du lien social, ça le renforce au niveau économique et au niveau environnemental.
Et ça fait un excellent lien aussi avec un autre épisode du podcast, je ne sais pas si tu l'as écouté, mais c'était avec Marc Giget, c'est le 18e, où justement il parle de cette synthèse créative humaniste, comme il dit, où finalement ce sont, c'est la société dans son ensemble qui prend possession des moyens et qui va innover de façon beaucoup plus humaine et collaborative, justement. Et tous les exemples que tu donnes là illustrent parfaitement ce qu'il évoque.
Mais je pense aussi que... moi, je crois que la majorité des solutions vont plutôt venir des citoyens. Et on le voit maintenant de façon assez géniale avec tous ces jeunes, notamment la jeune Greta et tous les autres jeunes en Belgique, en France, et un peu partout en Europe et à travers le monde, qui décident finalement de prendre l'enjeu climatique de façon extrêmement sérieuse et qui vont challenger les décideurs économiques et politiques en leur disant « Mais qu'est-ce que vous faites, quoi ? Ce n'est pas responsable, c'est pas cohérent. » Et je trouve ça absolument génial. Et je pense qu'effectivement, une bonne partie des solutions vont venir des citoyens, parce que les citoyens, entre eux, peuvent s'organiser de façon tout à fait logique, de façon solidaire, et trouver des solutions par eux-mêmes. Et donc, je crois que là, il y a un double défi, d'une part pour les autorités locales, les institutions, de pouvoir aussi prendre le train en marche, et donc de se relier à ces communs, ces collectifs de citoyens, en le faisant de la façon la plus respectueuse, et donc pas en venant avec des logiques de domination, de pouvoir et autres, mais au contraire de plutôt se mettre au service de ces collectivités, comme ça se fait à Gand, par exemple, où Gand met à la disposition de la collectivité des terrains en friche, des bâtiments qui sont plus utilisés, des bibliothèques, il y a différents sites qui sont partagé et qui permet finalement aux citoyens de se réapproprier ces lieux et de pouvoir les embellir et de les utiliser de façon collaborative. Je crois aussi qu'il existe un autre défi, c'est pour les entreprises, c'est d'arriver à ce qu'elles comprennent qu'elles ont aussi un rôle à jouer dans la transition et dans le support aux citoyens, d'une part parce qu'elles utilisent énormément de ressources, parce qu'elles ont énormément de moyens au niveau logistique, au niveau financier, au niveau matériel et aussi au niveau immatériel, et que donc elles peuvent aussi contribuer finalement à toute une série de projets sans que cela ne représente des budgets extrêmement importants. C'est vraiment une question de conscience et de volonté de collaborer avec les citoyens.
Et justement, pour reparler d'un sujet que tu as touché du doigt tout à l'heure, et ça c'est une idée que tu avais partagée sur LinkedIn il y a quelques mois, que j'avais découverte, mais que je trouve fantastique, c'est ce que tu évoques sur la fiscalité circulaire. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cette idée, s'il te plaît ?
Alors, par rapport à cette réflexion, l'idée principale, c'est de partir du premier constat qu'aujourd'hui, en tout cas en Belgique, je ne connais pas suffisamment la France pour en parler, mais en Belgique, la majorité des subsides...
Alors, des subsides, tu veux dire les subventions ?
Voilà, les subventions sont allouées à des organismes qui sont considérés comme étant des organismes, je vais simplifier, bienfaisants, ou en tout cas où on se dit, ok, telle et telle organisation est certifiée ou est reconnue par l'autorité publique, et donc, oui, elle doit remplir certains rapports justifiant, je dirais, l'utilisation des fonds, mais il n'y a pas une remise en question de l'ensemble des contributions qu'elles apportent à la collectivité. Et donc ça, c'est le mode de fonctionnement depuis déjà quelques décennies en Belgique. Je pense qu'on ne peut plus fonctionner sur base de ce mode-là, et ceci pour au moins trois raisons. La première raison, les pouvoirs publics disposent de moins en moins de budget. D'une part parce qu'il y a une politique néolibérale, je ne vais pas revenir sur tous ces éléments-là, la privatisation, etc. Mais en tout cas aujourd'hui, toujours est-il que dans les faits, les institutions publiques, en tout cas en Belgique, disposent de moins en moins de moyens budgétaires pour soutenir ce type de projet et d'association. Le deuxième élément, C'est parce que ces associations, je pense, et ces ONG doivent aussi se transformer. Elles ont aussi des choses à apprendre des entreprises en termes de processus, en termes de mode de fonctionnement, parfois même en termes de mode de gouvernance, en termes de motivation des personnes et autres. Et donc, elles doivent aussi se réinventer. Et le troisième élément, c'est parce que je pense qu'aujourd'hui, les enjeux planétaires et au niveau de l'humanité sont tels qu'on ne peut pas simplement limiter les contributions aux organisations qui sont considérées comme étant celles qui ont le droit et qui ont l'exclusivité de la bienfaisance et du bien-être global. Et que donc, on doit pouvoir faire appel à l'ensemble des contributeurs potentiels, que ce soit les communs, les citoyens, que ce soit les entreprises, les associations elles-mêmes, les ONG et bien sûr aussi les institutions. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième élément, c'est de considérer qu'aujourd'hui, nous sommes dans une limitation des ressources au niveau planétaire. Et donc, c'est de partir d'une logique, on va dire, biocapacitaire. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire, concrètement, de lister l'ensemble des ressources dont nous disposons sur Terre, l'eau, l'air, le sol, etc., l'ensemble de ces ressources, et de déterminer comment chaque pays, et je prends en l'occurrence la Belgique et les différentes régions, les différentes villes, peuvent contribuer pour améliorer la qualité de ces différents éléments, la qualité de l'eau, la qualité de la terre, la qualité de l'air, etc. Et également réduire les différentes externalités. Et donc, très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces grands objectifs au niveau sociétaux peuvent être traduits dans des objectifs précis à atteindre, qui peuvent être répartis par secteur d'activité, par territoire, par collectivité, etc. Et ensuite, d'inviter l'ensemble des acteurs à contribuer de façon positive à ces différents objectifs, ce qui signifie réduire les externalités. Qui dit réduire les externalités veut dire aussi réduire les coûts de traitement et de gestion de toutes ces externalités, donc les traitements des eaux usées, le traitement d'une qualité d'air qui est néfaste, tout ce qui impacte aussi au niveau de la santé humaine, etc. Donc tous ces coûts vont se réduire, puisque si on arrive à réduire les externalités. Et après, tu vas sans doute me demander, ok, super, mais comment est-ce qu'on fait pour financer? Eh bien, l'idée, c'est de financer.
Voilà, c'était surtout ça que je voulais que tu nous présentes.
Eh bien voilà, donc j'y arrive. L'idée, dans un premier temps, c'est de financer ces investissements, puisqu'il s'agit d'investissements, c'est de financer ces investissements en prenant une quote-part du coût de traitement et de gestion de ces externalités. Donc supposons que le coût de traitement d'une externalité telle que la qualité de l'eau coûte 100. Si on alloue par exemple 20 à des projets qui vont contribuer à la réduction de ces externalités, eh bien, ça va permettre à terme, après quelques années, finalement, de réduire le budget de l'État en termes de gestion et de traitement des externalités directes, mais également de toutes les externalités indirectes au niveau de la qualité de vie, de la santé, la qualité de l'air, la qualité des sols, etc., etc. Et donc, c'est finalement une façon budgétaire assez vertueuse. Parce que ça veut dire que plus on investit dans la prévention et dans la réduction des externalités, et plus on va réduire le budget de l'État à terme en termes de traitement de ces différentes nuisances.
Ouais, de correction de ces nuisances en plus. Mais il y a un autre aspect aussi qui est passionnant là-dedans, c'est donc du constat que tu fais aussi, c'est qu'aujourd'hui la plupart des mesures fiscales portent sur le travail justement. Et il y a de moins en moins de travail, dans le même temps, il y a de moins en moins de ressources, comme tu l'as très bien expliqué à l'instant. Et justement, l'idée de se dire qu'on taxerait moins ou même pas le travail pour taxer finalement l'utilisation des ressources, c'est quelque chose qui est passionnant, en fait, pour vraiment faire en sorte de pénaliser ceux qui vont utiliser uniquement des matières non renouvelables, vierges en permanence, etc., et de finalement favoriser la réutilisation par ces mesures fiscales.
Alors, je pense qu'effectivement, donc là, tu vas aller sur l'étape d'après, qui est effectivement d'ajuster également la fiscalité. Aujourd'hui, il n'est pas normal que moi, en tant que citoyen, en tant qu'individu, qui ne gagne pas spécialement des sommes faramineuses, loin de là, je paye plus d'impôts qu'Amazon. Amazon aujourd'hui détruit des écosystèmes, détruit des produits neufs qui n'ont pas eu l'occasion d'être vendus, ne contribue pas au financement des différentes ressources qu'ils utilisent, des différentes infrastructures qu'ils utilisent. Et donc, ce n'est pas logique d'avoir un système fiscal qui encourage la destruction des ressources, qui encourage également la dégénérescence même aussi au niveau humain, alors qu'à côté de ça, il y a des personnes, des organisations qui essaient d'y contribuer positivement. Je pense qu'il faut rééquilibrer les choses. Et pour moi, le rôle de l'État se joue bien là. Il ne s'agit pas d'avoir un rôle interventionniste extrême où ils doivent intervenir à tous les niveaux, mais en tout cas, au moins, de réguler des choses qu'il faut pouvoir réguler parce que, d'une part, parce que par rapport à la collectivité, ça me semble beaucoup plus juste, et puis d'autre part aussi, parce que sinon, ça veut dire qu'à terme, l'État n'existera plus. Je m'explique. Si ce sont les entreprises qui sont les moins contributives, qui payent le moins d'impôts et qui ont le plus de possibilités de gagner des parts de marché, de s'étendre, de se développer, comme les GAFA notamment, eh bien, ça signifie qu'à terme, ces entreprises-là, ces organisations vont prendre de plus en plus de place, vont employer de moins en moins de personnes, vont détruire de plus en plus de ressources et vont de moins en moins contribuer encore au financement de la collectivité. Donc, on va se retrouver dans des problèmes quand même assez problématiques pour financer nos soins de santé, la recherche, la scolarité des enfants, enfin, etc. Donc, je pense que c'est vraiment un enjeu de société et c'est un enjeu que nous voulons porter avec Michel Boens et d'autres, donc le fondateur de la Peer-to-Peer Foundation, que nous voulons porter au niveau politique, parce que je pense que c'est un débat de société qui est fondamental. Il ne s'agit pas d'un retour en arrière ou de revenir dans des clivages gauche-droite. Non, il s'agit simplement d'être dans une logique qui soit une logique contributive et qui soit aussi une logique finalement de se dire que ceux qui contribuent le plus devraient payer le moins de taxes et recevoir le plus d'aides ou de subventions et ceux par contre qui contribuent le moins et qui dégénèrent les ressources, eux devraient au contraire payer beaucoup plus de taxes et devraient aussi avoir des limitations par rapport à des choses qu'il n'est plus possible d'accepter aujourd'hui.
Oui, et puis en plus, alors là, on n'est pas juste sur des mesures correctives, hein, c'est un redesign complet finalement du système, et c'est ça qui peut être assez passionnant. Mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que finalement, quand on récompense et qu'on, ben, là en l'occurrence, on incite à des comportements vertueux, ben, de façon quasi automatique, ça se met en place et les mauvais élèves sont directement pénalisés. Et ça, c'est juste une question de redesign finalement d'un système fiscal et il suffit qu'il y ait un bon exemple qui soit mis en place quelque part et je pense que ça peut faire tache d'huile là aussi.
Oui, j'y crois aussi énormément et surtout ce que moi je constate sur le terrain, comme j'ai la chance de participer à des forums assez larges et aussi de rencontrer des personnes qui président des fédérations d'industriels et autres. La Belgique étant très petite, c'est facile de rencontrer les différentes personnes, de passer d'un cabinet ministériel au bureau du président d'une fédération d'industriels et autres.
Ça, c'est une chance, crois-moi, Emmanuel, parce que chez nous, en France, c'est plus compliqué.
J'imagine. Et donc, tous ces gens se connaissent. Et voilà, on a souvent étudié aussi dans les mêmes unifs, etc. Et donc, pourquoi je parle de ça? Parce que ce que je constate, c'est que quand j'ai des discussions en off avec des personnes qui président, qui coordonnent des fédérations, y compris chez les industriels, en fait, souvent, ils me disent, mais si on nous impose à tous les mêmes conditions, il n'y a pas de problème, on s'adaptera. Et donc, aujourd'hui, je pense que les législateurs sont parfois trop frileux que d'avancer un peu plus loin dans ce qu'il est possible de mettre en place et dans ce qui est nécessaire de mettre en place pour la collectivité, alors qu'en fait, l'industrie arrive à très facilement, enfin facilement, il faut un certain temps. Évidemment, je ne dis pas qu'il faut tout radicaliser du jour au lendemain, mais prévoir des modifications d'ici les prochaines années, d'ici les prochaines décennies, me semble indispensable pour donner des signaux extrêmement clairs. Et surtout, on n'a plus le choix. Je pense que par rapport aux préoccupations climatiques, par rapport aux écosystèmes et par rapport tout simplement à la possibilité de vivre sur cette planète, on doit vraiment remettre en question la façon dont nous consommons. Je ne dis pas, et comme je l'exprimais tout à l'heure, qu'on doit tous vivre dans des cavernes et se chauffer à l'ancienne, au contraire d'ailleurs, mais plutôt qu'il faut justement entreprendre de façon régénérative en se posant beaucoup plus de questions.
Oui, tout à fait.
Et pour revenir sur l'économie circulaire, quand on pense à l'éco-design, oui, il est certain qu'il y a une dizaine d'années, l'éco-design, et donc anticiper la deuxième, voire la troisième vie d'un produit, et puis ensuite sa transformation, voire le remanufacturing, la transformation, l'utilisation des ressources dans d'autres types d'usages, était compliqué il y a 10 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, avec tous les moyens technologiques qui existent, les différents logiciels, les imprimantes 3D, les lasers et autres, on peut tout à fait imaginer, prototyper, designer d'autres types de produits. J'ai eu la chance de contribuer à un projet avec des ingénieurs civils en première année, qui ont réutilisé des ressources de déchets électriques et électroniques de la région Bruxelles-Capitale. Il y avait 50 groupes qui ont créé des objets pour produire de l'électricité, produire de l'eau potable, pour préparer de l'alimentation, refroidir des plats, etc., etc. Ils y sont arrivés en première année avec des déchets, donc des poubelles, j'ai envie de dire, qui venaient de la région Bruxelles-Capitale en récupérant des vieux aspirateurs, des ordinateurs, différents types d'équipements. Ils ont réussi à créer ça. Donc je me dis, si des étudiants en première année, après quelques mois d'études, arrivent à faire cela, les industriels peuvent aller nettement plus loin. Et donc, c'est une question de volonté.
Surtout si c'est pensé dès la conception, en plus.
Exactement. Et ça permet aussi de transformer les modèles et de passer de la vente de produits avec une forme d'obsolescence programmée, qu'elle soit technologique ou bien imaginée au niveau du design, à une autre forme de collaboration avec les clients et de travailler différemment en partenariat avec les clients, d'anticiper leurs demandes et de finalement d'être beaucoup plus responsable et d'avoir une gestion beaucoup plus circulaire de l'ensemble de ces ressources.
Et juste pour illustrer cette nouvelle dynamique en termes de fiscalité, j'ai oublié de préciser, mais je mettrai la vidéo aussi dans l'article parce que je pense que cette vidéo est très bien faite et c'est d'autant plus...
La vidéo de Romain Ferrari. La Fondation 2019 ?
Non, je pensais à celle de l'ex-tax.
Ok, très bien.
J'y pense que maintenant, mais c'est important, je pense, d'illustrer tout ce qu'on vient de se dire. Mais effectivement, tu peux peut-être aussi parler de la Fondation de Romain Ferrari, effectivement, qui illustre bien tout cet aspect éco-conception à travers son entreprise et puis sa fondation. Effectivement, je te laisse continuer, évidemment.
Je pense que Romain Ferrari fait un travail fabuleux en France, notamment auprès des institutions, d'essayer de les convaincre, de faire évoluer la fiscalité. Et finalement, mais ça va dans le sens de ce que j'expliquais, de ce que nous échangeons il y a un instant, de repenser la fiscalité de façon beaucoup plus logique. Et j'ai envie de dire que c'est une logique, si on demandait demain à des enfants de redesigner la fiscalité, je crois que tous iraient vers cette logique-là, qui est une logique beaucoup plus vertueuse et évidente, finalement, de repenser une fiscalité de façon contributive plutôt que développer une fiscalité qui, en tout cas en Belgique, s'est faite par des accords intersectoriels et par des exceptions qui finalement aujourd'hui brouillent complètement les cartes. Et je pense aussi que c'est la raison pour laquelle il y a une certaine colère citoyenne de la part des gens qui ne voient plus très bien comment fonctionnent les institutions, qui ne voient plus très bien la logique et la stratégie des institutions. Et donc, je pense que là aussi, il y a aussi intérêt pour les institutions, les différents pouvoirs, de retrouver du lien avec les citoyens en repartant sur une logique beaucoup plus simple et cohérente par rapport aux écosystèmes et par rapport à la vie sur Terre.
Oui, tout à fait. Et en plus, effectivement, c'est tout en plus d'actualité que vous avez aussi des gilets jaunes en Belgique, etc. Et que
oui.
La situation dure quand même depuis plus de 3 mois déjà. Et on ne sait pas trop comment ça va se terminer là-dessus. Mais c'est vrai que même en France, c'est très pesant en fait. Et je suppose que même au gouvernement, ils ne voient pas trop d'issue en fait.
Oui, et je pense que par rapport à ça, juste une petite parenthèse, je crois que le principal problème, c'est parce qu'il n'y a plus suffisamment de dialogue.
Mais tout à fait.
À partir du moment où les différents décideurs prennent du temps réellement pour aller sur le terrain, pas pour faire des visites officielles, mais pour vraiment comprendre la réalité de terrain, écouter comment les gens vivent, comment ils travaillent, ce qu'eux observent sur le terrain, en fait, c'est une source d'inspiration absolument fabuleuse. J'ai eu la chance par les années précédentes de développer différents projets dans des petites ou plus grandes organisations. Et la plupart du temps, ce sont les personnes sur le terrain, les personnes qui s'occupent du volet logistique et très opérationnel, qui arrivent à trouver les solutions les plus importantes à faire évoluer. Après, c'est aux dirigeants, aux managers, aux responsables politiques à institutionnaliser les choses et à voir comment les mettre en place. Mais je pense que la majorité des idées ne viennent pas spécialement des grandes écoles de gestion ou des grandes universités, mais viennent aussi du terrain. Et on a besoin de retrouver cette forme de dialogue tout en évitant le populisme et le simplisme, mais de tout simplifier. Mais par contre, la complexité, elle est vécue aussi sur le terrain. Et je pense que recréer du dialogue, idem sur la question des migrants, se rend compte que ces personnes constituent plus des solutions à des enjeux que nous avons, notamment en Belgique, où on cherche des compétences, on cherche des ingénieurs qu'on n'a pas suffisamment et qui sont enfermés dans des lieux où ils doivent attendre d'avoir des papiers, alors qu'en fait, ils pourraient venir travailler avec nous et développer différents projets. Donc, je pense que cette vision simpliste est l'ennemi de toutes les possibilités que représente cette logique écosystémique.
Oui, d'ailleurs, à ce sujet, il y a une excellente initiative pour illustrer ce que tu viens de dire en France, qui est assez connu, qui s'appelle le Ferme d'Avenir. Je ne sais pas si tu en as entendu parler en Belgique, mais justement, ils travaillent sur l'intégration des migrants qui ont des capacités, des compétences en termes agricoles. Et donc, les intégrer tout de suite à des fermes, parce que ils ont les compétences. Bon, évidemment, le climat n'est peut-être pas le même, mais bon, ça, ils peuvent faire l'adaptation. Mais effectivement, tu as raison. Ces personnes-là, il faut arrêter, encore une fois, de les considérer de la plus mauvaise des manières. Mais surtout, il faut les considérer comme des personnes qui ont de l'énergie à apporter et qui peuvent tout à fait s'intégrer. Et ça, c'est effectivement encore une fois, voir l'opportunité plutôt que tout de suite dresser des murs. Quoi.
Moi, ce que je fais en général par rapport à cela, c'est deux choses. Inviter les personnes à faire des parcours migrants. Ça dure 2 heures, environ 1h30, 2 heures. Il y a plusieurs associations en Belgique qui proposent aux citoyens de découvrir le parcours d'un migrant. Et là, ils se rendent compte que c'est loin d'être évident, tous les obstacles qu'ils ont à franchir. Et puis, la deuxième chose qui, pour moi, est indispensable, c'est de dialoguer avec des migrants. Une fois qu'on discute avec des migrants, quelle que soit leur origine, on se rend tout de suite compte que ce sont des personnes qui viennent ici parce qu'ils veulent contribuer, ils veulent aider, ils veulent travailler et ils veulent vivre comme tout le monde en paix et contribuer à une société beaucoup plus profitable. Pour eux, pour leur famille et pour l'ensemble des personnes, et qu'ils ont des compétences. La plupart du temps, on l'oublie, mais les personnes qui migrent sont des personnes qui ont des compétences intellectuelles et aussi pratiques, et qui peuvent, ces compétences peuvent être mises au profit de nos économies ici également en Occident.
Et j'ajouterais en plus, c'est souvent des gens qui avaient les moyens de pouvoir faire cette épreuve incroyable de traverser des pays, des mers, etc., pour arriver jusqu'ici, parce qu'il fallait aussi des moyens économiques, et c'est souvent des gens qui, dans leur pays, avaient une bonne situation en plus.
Exactement, et puis n'oublions pas non plus que nous avons, nous ou nos ancêtres, à un moment donné, été aussi migrants. Il n'y a pas si longtemps que ça, vers 1940, ou à d'autres époques, où on a dû aussi migrer, parce que voilà, il y avait des menaces, il y avait des situations qui faisaient qu'on ne pouvait plus vivre de façon sereine, dans le lieu où on était. Donc je pense qu'on est tous finalement migrants, on a tous des racines de toute façon mixité, puisque le berceau de l'humanité se trouve en Afrique, et je pense qu'on a tous dû migrer à un moment donné, ou bien nos ancêtres.
Et justement, il y a une citation que j'aime beaucoup dans Shifting Economy, c'est, vous dites, une bonne fois pour toutes et de façon claire, aujourd'hui il faut être capable de dire que on peut faire cette mutation énorme de passer de notre économie dégénérative à une économie régénérative sans peur, ensemble, avec l'intelligence collective, on peut y arriver, on peut affronter ces challenges. Et justement, on est dans un moment que je trouve de plus en plus clé. Alors, tu l'as évoqué avec notamment le mouvement initié par Greta Thunberg, qui est juste extraordinaire. Enfin, je veux dire, une petite lycéenne suédoise, enfin, qui arrive à soulever des foules dans je ne sais pas combien de dizaines de pays au bout de quelques mois, c'est juste extraordinaire. Et je trouve que c'est une belle réponse aussi à cette incertitude du temps, en fait. Et justement, est-ce que toi, tu penses que cette intelligence collective que tu as pas mal évoquée pendant notre entretien, elle va finir par prendre le dessus? Est-ce qu'on va finir par y arriver, quoi?
Oui, moi je pense que de toute façon, on va y arriver. D'une part, parce qu'on n'a pas le choix. Et je pense aussi que finalement c'est l'instinct de survie qui va primer. Aujourd'hui, le plus grand problème, je pense que nous avons, et je vais parler pour la Belgique, puisque c'est le territoire que je connais le mieux. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation extrêmement confortable. La Belgique est un des pays les plus riches au monde. Je pense que dans le top 20 ou peut-être un peu plus encore. Et donc, on a tellement de moyens, tellement de ressources facilement, des soins de santé de qualité, une éducation pas trop mauvaise, etc., que finalement, on ne se rend pas compte de tous les enjeux et de toutes les possibilités aussi de contribuer à ce changement de façon positive. Et je pense que de plus en plus de personnes vont y arriver soit par choix, par prise de conscience, ou bien vont y arriver parce que elles vont se retrouver elles-mêmes confrontées à des situations difficiles, burn-out, licenciement parce que remplacé par un algorithme ou bien par un robot, ou encore d'autres situations. Et donc finalement, je pense qu'on va y arriver. Ce qui est important pour moi, c'est d'arriver aussi à une masse critique.
Oui, tout à fait.
On parle souvent des 20%. Si on atteint 20%, sans doute que ça sera un shift, il y aura une possibilité de basculement plus importante. Je ne m'attends pas non plus à ce que tout le monde soit en train de porter des mouvements. Et donc chacun peut y contribuer à sa façon, en faisant du bénévolat, en prenant conscience, en respectant les gens autour d'eux, en contribuant à certaines initiatives, en se posant des questions surtout, et en se déconnectant aussi, je crois, de la frénésie et de la peur. Aujourd'hui, ce qui drive le monde, c'est la peur. La publicité est basée sur la peur de manquer, de ne pas être suffisamment beau, d'être gros, d'être machin, enfin, etc. etc. La peur aussi de toute une série de menaces qui sont répétées sans cesse dans la presse. Et je pense qu'il faut pouvoir aussi réenchanter son présent et son futur. C'est ce qu'explique aussi Rob Hopkins. Finalement, c'est de repenser autrement son avenir. Et si on se demande comment faire, en fait, c'est très simple. Et je vais juste citer une expérience qui est réalisée dans des quartiers compliqués, que l'on connaît malheureusement sans doute en France, associée à des mauvaises nouvelles, mais c'est le quartier de Molenbeek à Bruxelles. C'est un quartier parfois difficile, et j'ai la chance de contribuer de façon bénévole à certains projets dans ce quartier-là. Et en fait, ce que nous constatons, c'est que des jeunes qui se retrouvent en situation difficile, d'échec scolaire, démotivation, peu de liens au niveau familial, qui sont en questionnement par rapport à ce qu'ils vont faire dans la vie, etc., eh bien, simplement en deux semaines, donc 15 jours, c'est rien dans une vie, on les invite à venir à passer donc 15 jours en pleine nature, à travers un mouvement scout, mais qui est adapté à leur profil, etc. Donc c'est pas les scouts classiques, mais quasiment. Alors pendant ces deux semaines, ils n'ont plus de smartphone. Donc ça, au début, on a l'impression qu'on leur arrache un bras ou une main, je sais pas trop.
Je sais pas ce que tu veux dire.
Donc il y a plus de smartphone, plus de téléphone, plus rien, plus de technologie, plus d'ordinateur, etc. Et ils se retrouvent finalement reconnectés avec la nature. Et là, pour le coup, ils ont de bonnes connexions avec la nature parce qu'ils sont obligés finalement de gérer les ressources. L'accès à l'eau, parfois il faut marcher 1 ou 2 kilomètres pour aller chercher de l'eau dans un seau, le ramener, faire attention, préparer de la nourriture. C'est pas aller dans un night shop à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. C'est prendre ce qu'on a et ce qu'on a pris et ce qu'on a oublié, on ne mangera pas évidemment, et donc on n'a pas le choix. Et en fait, ce qui est observé, c'est que ces jeunes, après seulement 2 semaines, ils sont transformés. Et donc les familles contactent les organisateurs de ces différents ces différents moments de découverte dans la nature et disent mais en fait c'est incroyable, nos enfants ont changé, ils nous aident à faire la vaisselle, ils rangent leur chambre, ils étudient, ils sont polis, et tout ça simplement en 2 semaines. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que
comment s'appellent ces organisations là, enfin pour qu'on puisse peut-être mettre un lien ou je sais pas.
Alors cette organisation qui est absolument géniale s'appelle la SENS Academy, C-E-N-S Academy en anglais avec un Y à la fin. Et cette association, je vais encore en parler un tout petit peu parce qu'elle a une autre particularité. Cette association, en fait, elle attire d'abord les jeunes par le sport de compétition.
Ouais.
C'est le jujitsu, donc un art martial. Et en fait, les jeunes, évidemment, sont attirés par rapport à ce type de sport puisqu'ils ont besoin de se défouler, c'est normal. Je pense qu'on l'était tous à l'époque, on était ados. Et donc, sont attirés d'abord par le sport, par le jujitsu. Et puis ensuite, ils vont pouvoir, après ça, emprunter d'autres chemins, qui est notamment la remédiation scolaire, apprendre autrement avec d'autres méthodes que les méthodes classiques de l'école, ce qui leur permet souvent de rattraper leur retard scolaire, à trouver de la confiance, de la responsabilité dans cette association, et aussi à participer finalement à ces week-ends ou à ces semaines qui sont organisées en mise au vert. Et en fait, ce qui est absolument génial, et je veux souligner quand même cet élément-là parce que c'est quand même assez exceptionnel. En fait, cette association réunit 15 champions du monde ou d'Europe en jiu-jitsu. Donc, grâce à toute cette motivation, à cette spirale et à ce travail collectif, ils arrivent finalement à être leaders dans un des sports qui n'est pas du tout belge d'origine, comme le nom l'indique, le jujitsu. Ils arrivent en fait à avoir des champions juniors, seniors, différents poids, différentes catégories, hommes-femmes. Qui sont champions dans voilà, et je trouve ça assez fabuleux parce que finalement c'est aussi la meilleure symbolique du fait que un travail collectif permet aussi dans des sports individuels, parce que jiu-jitsu finalement on se retrouve seul à seul face à un adversaire ou un adversaire, permet aussi avec un travail préparatoire, des entraînements et un état d'esprit collectif, permet grâce au travail qu'ils font dans la Sense Academy de pouvoir développer un avenir pour ces jeunes et à pouvoir les transformer. Donc, si on y arrive en ayant peu de moyens, parce que je peux vous dire qu'ils ont peu de moyens financiers, dans des quartiers difficiles, je pense que toutes les autres personnes, ou en tout cas énormément de personnes en Occident, qui vivent dans des situations beaucoup plus confortables, peuvent aussi arriver à se reconnecter avec la nature, se reconnecter avec eux-mêmes, avec leur raison d'être, avec leur famille, leurs amis, et tous leurs proches, et à retrouver finalement du sens dans leur vie, et à repenser leur façon d'être un être économique et de repenser leur pouvoir d'achat en ayant un pouvoir d'action et un pouvoir de transformation et de contribution.
Bravo, c'est une belle conclusion finalement, parce que d'habitude je pose un petit peu la question sur les 3 conseils pour finalement essayer d'accélérer la transition. Alors là, je voulais te poser la question au niveau individuel, mais finalement là, t'as complètement répondu à la question et je pense que, enfin voilà, il n'y a pas besoin de s'étendre plus là-dessus, parce que je trouve que l'exemple que tu as donné est particulièrement brillant. Mais éventuellement, s'il y a des gens qui sont dans des entreprises qui ont besoin de conseils pour justement essayer d'accélérer la transition de leur entreprise, qu'est-ce que tu pourrais leur dire peut-être plus à ce niveau-là? Je pense qu'on tu as des éclairages utiles à apporter.
Alors, le premier élément, c'est que je pense qu'il faut d'abord respecter la vitesse de progression de son entreprise et des différentes équipes, des différents départements. Donc, vouloir aller plus vite que la vitesse de progression et de transformation et de prise de conscience que les autres, que ses collègues, les départements, c'est quelque chose de difficile à faire, parce que ça ne permettra pas une transformation pérenne, et donc ça ne permettra pas une résilience. Et puis aussi, parfois, on a tendance à s'essouffler et à se faire du mal. Et donc, il vaut mieux respecter la vitesse de progression. Donc, parfois, ça peut être frustrant, mais je pense que c'est indispensable. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est le fait de constituer une petite équipe interne, voire externe, peut-être parfois aussi avec ce qu'on appelle un advisory board, qui permet finalement de réunir des experts ou des personnes qui vont déjà plus loin qui viennent de l'extérieur, et qui permettent d'inspirer le petit groupe interne de l'entreprise. Et même si vous êtes que 3 ou 4 dans un premier temps, mais ça permet déjà de développer des premières initiatives. Ensuite, je pense qu'il est préférable de commencer par des initiatives périphériques, c'est-à-dire viser plutôt des succès qui vont permettre de montrer aux gens que c'est possible de changer sans que cela ne coûte trop cher ou que cela ne chamboule trop les habitudes pour y aller progressivement. Alors, ça dépend évidemment de la culture de l'entreprise. Hein, s'ils sont adeptes au changement, on peut aller plus vite. Mais sinon, parfois, il vaut mieux commencer par des choses beaucoup plus périphériques, le tri des déchets, valoriser les ressources autrement, créer des collaborations avec des associations territoriales proches, etc. Et puis après ça, de commencer à questionner finalement l'entreprise, de poser énormément de questions. L'avantage des questions, c'est que ça permet de ne pas venir avec une position de sauveur ou bien de personne qui connaît tout.
Tout sachant, oui.
Voilà, et plutôt de poser des questions. Et donc, ça permet aux personnes de faire elles-mêmes un travail et de se poser elles-mêmes la question en disant, tiens, oui, je n'avais jamais pensé au fait qu'on pouvait valoriser différemment ces déchets qui représentent un coût aujourd'hui. Ah, ça pourrait peut-être représenter un revenu. Et peut-être même qu'on pourrait revoir le processus et améliorer les performances et optimiser le stock. Tiens, waouh. Et donc, c'est d'amener progressivement les questions.
Ouais, c'est ce qu'on dit souvent, c'est essayer d'allumer plein de petits feux et au fur et à mesure, on va peut-être sélectionner certains feux, mais on va pouvoir les réalimenter de façon à ce que ça prenne de plus en plus d'ampleur finalement.
Exactement. Je crois aussi que ça peut être intéressant de pouvoir finalement inspirer les personnes en interne. Donc projeter des films comme Demain, Après-demain, des choses qui vont permettre de créer du dialogue, de créer l'intérêt, la curiosité. Il faut aussi, et moi je suis le premier à être respectueux aussi vis-à-vis de personnes qui n'ont pas encore eu la chance de prendre conscience de l'importance et de l'intérêt que ça peut représenter pour elles et également pour la collectivité de se transformer. Moi, il y a 20 ans, j'étais encore dans l'ancien modèle économique. Et donc, je sais ce que c'est que d'y être, de souffrir et de ne pas voir le champ des possibles dans toutes les transformations et la transition qu'il est possible de réaliser. Et donc, je crois qu'il faut y aller progressivement. Il faut aussi que la vibration ne soit pas trop importante, sinon ça risque de créer des chocs et parfois des personnes restent sur le côté ou se retrouvent en difficulté. Et le dernier élément que j'ai envie de donner comme conseil, c'est d'essayer d'être bilingue. C'est-à-dire de ne pas venir tout de suite avec des termes ésotériques qui vont faire qu'on va vous traiter d'écolo ou de communiste de service. Mais donc ça, j'ai eu l'habitude pendant un certain temps, c'est pour ça que entre-temps, j'ai adapté mon discours. Et donc, c'est plutôt de venir avec des termes qui vont peut-être être plus issus et connus et respectés dans l'ancienne économie, mais qui vont permettre déjà de faire certaines transformations, certaines prises de conscience. Juste un exemple, et on en cite plusieurs dans Shifting Economy, au lieu de venir avec l'approche d'économie qui a été développée par Pocheco en France, dans le nord de la France, et qui est présente dans le film Demain, et donc qui finalement est une approche qui combine l'économie et l'écologie, et donc de combiner les deux approches en parallèle pour augmenter l'efficacité des processus tant au niveau environnemental qu'au niveau économique et également au niveau social et au niveau du mode de gouvernance. Donc si on vient avec ce genre de termes, ça va être compliqué parce que ça ne fait pas partie des codes des personnes qui pensent anciennement, ni de leur background au niveau des études. Par contre, leur dire, leur poser la question, par exemple, de leur dire est-ce qu'on pourrait faire du process re-engineering, revoir les processus, pour voir comment on pourrait optimiser notamment le stock et l'efficacité opérationnelle. Ce n'est pas exactement la même chose, mais c'est une façon de questionner et de se mettre en chemin qui peut permettre aux personnes de se dire tiens, oui, il y a peut-être un intérêt financier, matériel ou autre, et la façon dont vous allez le faire, vous allez pouvoir l'agrémenter de techniques qui vont interroger aussi les questions sociales, le bien-être, l'environnement aussi. Il m'arrive souvent de co-gérer, d'animer des réunions en pratique d'intelligence collective dans des organisations extrêmement classiques, industrielles, sauf que je n'utilise pas du tout ces termes. Je leur dis, tiens, comment vous vous sentez aujourd'hui ? Je vous propose qu'on le fasse en cercle. Et puis, hop, les personnes en cercle commencent à dire comment elles se sentent. Et puis, je dis, tiens, au niveau de l'agenda, Je sais qu'il y avait un agenda qui avait été déjà été envoyé par monsieur le directeur Intel, mais est-ce que vous avez d'autres points à citer? Et en fait, j'agrémente la réunion, j'essaie de l'alimenter et de l'animer avec un bâton de parole aussi de temps en temps, parfois virtuel, mais pour permettre d'amener une autre énergie, et souvent ça fonctionne. Par contre, je sais que si je viens en disant « Bonjour, nous allons vivre une expérience en pratique d'intelligence collective ou en sociocratie ou en holacratie », la plupart du temps, la moitié des gens se crispent, se disent « Oulala, c'est quoi ce truc? Avec quoi il va venir ?» Et donc, c'est d'ouvrir le champ.
Ce nouveau truc de baba cool à la mode.
Exactement. Mais par contre, ce qui est génial, c'est que si je n'utilise pas ces termes et j'utilise des anciens termes et que j'agrémente cette réunion de façon différente, souvent en fin de réunion, quand je demande aux personnes pour faire un dernier tour s'ils ont encore des questions, des frustrations ou autres à partager, la plupart du temps, ils se disent « Waouh, c'était une chouette réunion, c'était efficace. » Et puis après, je leur dis progressivement bah, « Tiens, bah, lis tel bouquin, tiens, va voir telle vidéo ou bien je t'invite à faire tel élément. » Et donc, c'est finalement de venir de façon incrémentale plutôt que de venir de façon brusque parce qu'on a vu à un moment donné la lumière. C'est de respecter finalement la progressivité et le temps d'évolution de chacun et de se respecter également soi-même.
Mais c'est très rigolo ce que tu dis sur les termes utilisés parce que effectivement les premières années de Wita aussi on était tombé dans le piège et finalement on a un petit peu changé de discours et puis surtout on a fait en sorte de faire coordonner les intérêts de nos clients avec un petit peu la raison d'être de Wita et finalement tout se rejoint, c'est-à-dire que si tu es plus performant en termes de consommation énergétique, de consommation de ressources, etc., bah, ce sur quoi tes clients sont jugés, bah, il y aura aussi des résultats positifs là-dessus. Donc, c'est aussi, là aussi une question de vision et d'analyse de l'information et comment tu peux partager ça, en fait. Et c'est très, très important ce que tu viens de mentionner, en tout cas.
Avec plaisir.
Bon, en tout cas, un grand merci, Emmanuel. Je trouve que c'était vraiment passionnant, notre entretien, enfin, tout ce que tu avais à nous dire, en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ?
Eh bien, c'est de pouvoir continuer à contribuer et avoir un maximum d'impact dans différents projets. Voilà, je pense que c'est et continuer à avoir du fun et d'apprendre parce que je pense que depuis que je contribue à des projets de transition économique, j'apprends aussi énormément parce que c'est un secteur en pleine évolution. Il y a plein de choses géniales qui se déroulent. Et donc, c'est de continuer à apprendre et à m'amuser. Voilà, parce que c'est ce qui permet aussi de transmettre de la motivation aux gens et de, voilà, de favoriser encore plus de projets avec encore plus d'impact.
Bon, bah, génial. Je te le souhaite bien volontiers. Encore merci pour ton temps et puis bah, je te dis à bientôt.
Merci, à toi aussi, à bientôt, au revoir.
Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'à la fin.
Partagez-le autour de vous et notez-le 5 étoiles sur iTunes pour le diffuser auprès du plus grand nombre. Si vous souhaitez en savoir plus sur cet épisode, notre invité ou nos services, contactez-nous par mail à hello@circulab.com.
C'était Justine Laurent et Brieux Saffré pour le podcast Activer l'économie circulaire. À bientôt pour un prochain épisode.